Le journal présenté par Louis-Valentin Lopez.
Bonjour à toutes et à tous. Et ce midi, nous consacrons évidemment un très large volet de notre édition à la Syrie. Des frappes américaines, anglaises et françaises ont ciblé des bâtiments du régime. C'était cette nuit. Où en sommes-nous? À 12h30, eh bien, nous ferons d'abord le point avec notre correspondant à Beyrouth, Nicolas Feldman. Ensuite, Nathalie Hernandez sera avec nous en studio pour détailler la position française. Puis nous prendrons un peu de hauteur avec Vincent Desportes, professeur à Sciences Po. Il décryptera les conséquences des frappes sur l'échiquier international. L'actualité internationale, c'est aussi cette affaire sordide en Inde, le viol de deux fillettes. L'indignation fait tache d'huile dans la société. Les explications de Sébastien Farcy. La disparition d'un virtuose du cinéma, Miloš Forman, le réalisateur s'est éteint à l'âge de 86 ans. On l'écoutera, il était passé par notre antenne en 2010. Et puis la Bulle Écho, Marie Vienneau nous parlera de Brexit et de culture. Après des atermoiements, des tergiversations, des missiles ont frappé le sol syrien cette nuit. Des frappes menées en coordination par Washington, Londres et Paris. Elles ont ciblé trois sites du régime de Bachar al-Assad. Des bâtiments soupçonnés d'être liés à la fabrication d'armes chimiques. Nous partons tout de suite au Moyen-Orient avec notre correspondant à Beyrouth, Nicolas Feldman. Bonjour.
Bonjour.
Damas dénonce une agression barbare et brutale et les premiers mots de Bachar al-Assad ont été publiés il y a quelques minutes par la présidence syrienne.
Oui, Bachar al-Assad qui parle d'une agression, elle ne fait que renforcer la détermination de la Syrie dans la lutte contre le terrorisme, dit le président syrien. Bachar al-Assad qui s'exprimait lors d'un entretien avec son homologue iranien Hassan Rouhani. Alors il était un peu plus de 4 heures du matin, heure de Damas, quand les premiers missiles ont touché la Syrie. Dans la foulée, la télévision syrienne a pris l'antenne sur la place des Omeyyades au cœur de Damas. On a pu voir au petit matin des dizaines de Syriens se rassembler en soutien à Bachar al-Assad. La télévision d'État, elle, a dénoncé une agression tripartite et parle de frappes illégales menées hors du droit international. Sur le plan militaire, l'agence d'information Sana confirme les trois cibles que le Pentagone assure avoir frappées, des sites liés au programme chimique syrien. Il s'agit d'un centre de recherche à Damas ainsi que d'entrepôts près de la ville de Homs. L'agence gouvernementale parle de trois civils blessés et de dégâts matériels dans ces frappes. Et puis à noter cette actualité qui a vite été éclipsée par une autre ce matin dans les médias d'État. C'est l'entrée pour la première fois depuis 5 ans des troupes syriennes à Douma, la dernière ville de la Ghouta orientale, reprise avant-hier aux rebelles.
Merci beaucoup Nicolas Feldman en direct pour France Culture de Beyrouth. Depuis tôt ce matin, suite à l'opération, les réactions fusent. Angela Merkel, la chancelière de l'Allemagne, qui n'était pas partie prenante, on le rappelle, de l'opération, évoque des frappes nécessaires et appropriées. Approprié, c'est aussi le terme employé du côté turc par le ministère des Affaires étrangères. Au Kremlin, en revanche, pas de surprise, Vladimir Poutine condamne fermement les frappes. Le président russe est un fidèle allié de Bachar al-Assad. Alors, quid de la France? Bonjour Nathalie Hernandez.
Bonjour.
Le gouvernement justifie en fait son intervention.
Ah oui, la ligne rouge a été franchie sans aucun doute, a assuré Jean-Yves Le Drian ce matin. Paris avait prévenu, mais Damas a continué depuis 2013 à fabriquer et à utiliser des armes chimiques. Le régime syrien a donc violé le droit international et savait à quoi il s'exposait. Cette escalade chimique n'est pas acceptable, a expliqué le ministre des Affaires étrangères. Cette intervention militaire est donc légitime. Proportionnée, elle a été circonscrite à des objectifs précis afin de dissuader Damas de continuer. La France entend travailler dès maintenant à la reprise du processus politique, a ajouté Jean-Yves Le Drian, avec trois impératifs. Un démantèlement de tout programme et arsenal chimique, qu'il soit vérifiable et irréversible. Ensuite, un cessez-le-feu et un accès à l'aide humanitaire. Enfin, élaborer un plan de sortie de crise en vue d'une solution politique. Sur le plan militaire, la ministre des Armées a détaillé une opération commune avec les Américains et les Britanniques. Au total, trois sites ont été bombardés dans la banlieue de Damas et dans la région de Homs. Sur ces objectifs, Paris a assuré avoir évité au maximum de toucher la population. Paris pense aujourd'hui avoir dégradé ainsi significativement les moyens syriens de pouvoir produire et de pouvoir stocker des armes chimiques.
Merci Nathalie Hernandez pour ces détails en direct du studio de France Culture. Alors si toutes les frappes n'ont pas atteint leur cible, pour Vincent Desportes, professeur à Sciences Po, ancien attaché militaire auprès de l'ambassade de France aux États-Unis, ces frappes ont au moins ce mérite, remettre les puissances occidentales à la table des négociations pour une sortie de la crise syrienne.
quel sera l'effet sur Monsieur Assad. On a bien vu que les menaces de 2013 n'avaient pas agi. Le coup de ce monstre très solide du mois d'avril 2014 avec 50 Tomahawk envoyés sur un aéroport n'ont pas suffi. Alors, est-ce que cela suffira? Je ne sais pas. Monsieur Assad n'a pas l'air de comprendre les leçons qui lui sont données. Mais il est clair, en revanche, que cet acte était fondamental pour bien montrer à tous les apprentis dictateurs du monde qu'il y avait des limites à ne pas dépasser. C'est un acte qui parle au monde, qui parle à M. Poutine, qui parle à M. Erdogan, qui parle à M. Assad, qui parle aux citoyens français et qui parle aux citoyens du monde. Je pense que c'était un acte utile.
Donc, selon vous, la France a eu raison de participer à ces frappes?
La France ne pouvait pas ne pas le faire. Sous peine, d'une part, de décrédibilisation de son président et donc de son exécutif auprès de la communauté internationale, de la même manière que M. Obama est totalement décrédibilisé en ne faisant pas ce qu'il avait dit. Donc la France n'avait pas le choix.
Et avec les frappes qui viennent d'être faites cette nuit, est-ce que vous pensez que l'allié russe, justement, va essayer de durcir le ton auprès de la Syrie pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus?
Eh bien, c'est justement une des possibilités. On sait bien que M. Poutine est dans l'embarras avec la Syrie parce qu'il est un allié objectif, parce qu'il a besoin de la base aérienne de Latakia, il a besoin de son port de Tartous, mais il sait aussi que ces bases-là sont fragiles dans un pays en proie à la révolution et à la guérilla. Et donc, il ne sait pas trop comment se sortir de cette affaire. Et donc, il n'est pas impossible, même il est certain, qu'il va chercher à tirer le meilleur parti de cette frappe qui, en quelque sorte, lui a été imposée.
Et qu'est-ce qu'il pourrait faire?
Eh bien, M. Poutine peut faire pression sur M. Assad. En tout cas, et je pense que c'était un des objectifs de cette frappe, il était de montrer à M. Poutine que l'Amérique était bien redevenue forte. Elle l'avait montré en 2017, elle le remontre là, qu'il n'y a pas que l'Amérique, qu'il y a la France, qu'il y a la Grande-Bretagne qui, comme vous le savez, ont été exclus du jeu en Moyen-Orient par absence diplomatique et par absence d'action militaire véritablement efficace à tout point de vue dans les affaires syriennes. Donc, quelque part, l'Occident, puissance plutôt modératrice, est en train, par ce biais-là, de revenir à la table de négociation. Je pense même que cela peut rendre service à M. Poutine.
Merci Vincent Desportes, professeur à Sciences Po, ancien attaché militaire auprès de l'ambassade de France aux États-Unis. Il était interrogé par David Ravier. En Égypte, l'armée annonce aujourd'hui la mort de 27 djihadistes tués ces derniers jours lors d'une opération antiterroriste dans le Sinaï. Le Sinaï où est implantée la branche égyptienne du groupe État islamique. Dans un communiqué, l'armée le précise aussi, 114 suspects ont été arrêtés, un camp d'entraînement détruit. Ce sont deux affaires de viol qui confrontent l'Inde à ses démons. Ces affaires remontent à plusieurs mois, mais ont connu des rebondissements ces derniers jours avec des manifestations. Sébastien Farcy, ce crime revêt en plus une dimension politique.
Le crime est d'une cruauté rare. Selon la police, la fille de 8 ans, qui appartient à une tribu nomade et musulmane du Cachemire, est kidnappée par un ancien fonctionnaire hindou avec l'aide de plusieurs policiers. Ils la retiennent captive durant 4 jours pendant lesquels ils la violent à tour de rôle avant de la battre. Leur objectif, terroriser cette communauté musulmane pour la faire fuir de cette localité à majorité hindoue. Quand la police arrête ces suspects hindous, deux ministres du gouvernement régional manifestent pour les soutenir. Ils appartiennent à la formation du Premier ministre, le Parti nationaliste hindou du BJP. Le scandale éclate et ses ministres viennent de démissionner. Il n'empêche que cette affaire démontre la haine anti-musulmane du BJP qui tient le pouvoir à New Delhi ainsi que dans les trois quarts des États indiens. La crise est d'autant plus sérieuse qu'un autre député local de ce parti est également accusé d'avoir violé une mineure dans une autre région du pays, l'Uttar Pradesh. Ce vendredi soir, le Premier ministre Narendra Modi est sorti de son silence pour assurer que toute la justice sera faite pour ses filles.
Sébastien Farcy. En France, les affrontements ont repris ce matin à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Des centaines d'opposants ont remis des barricades là où les gendarmes se sont employés à les démanteler, selon l'AFP. Des affrontements qui reprennent au lendemain de la visite surprise du Premier ministre Édouard Philippe. C'est un homme de cinéma épris de liberté qui nous a quittés aujourd'hui à 86 ans. Miloš Forman, le réalisateur américain d'origine tchécoslovaque, avait fui son pays après la répression du printemps de Prague en 1968. Il avait ensuite trouvé la consécration à Hollywood. On lui doit notamment La frénésie d'Amadeus ou encore La douce folie, de vol au-dessus d'un nid de coucou, un film qu'il a absolument tenu à faire. Il expliquait d'ailleurs sur notre antenne, c'était le 3 octobre 2009, dans l'émission Projection privée.
Kirk Douglas a acheté les droits pour le livre en 1962. Il a voulu faire le film. Il n'a pas réussi à trouver d'argent. Il a décidé de financer le film lui-même avec son propre argent. Alors, il avait besoin de quelqu'un qui peut faire le film bon marché. Alors, il m'a demandé s'il peut m'envoyer le livre. Bon, naturellement, mais le livre n'est jamais arrivé. 10 ans plus tard, le même livre vient de Michael Douglas à Saul Zenz.
Le fils.
Michael Douglas est fils de Kirk Douglas. Et j'ai appris que Michael ne savait pas que son père a déjà envoyé mon livre. Et c'était drôle parce que, bon, j'ai lu le livre. Oh, c'est fabuleux. Et, mais mes amis américains me disent, ne touche pas ce livre, ne fais pas ce film, parce que ça va te faire mal, parce que c'est un livre tellement américain, américain classique, qui est juste venu de l'Europe, tu ne peux pas vraiment comprendre. Et je disais, mais qu'est-ce que vous parlez? C'est une histoire tchèque. Pour vous, c'est la littérature, mais pour moi, c'est la vie réelle.
Des propos précieux du réalisateur Miloš Forman, décédé aujourd'hui à 86 ans. Il s'exprimait sur notre antenne, c'était en 2010. Allez, c'est l'heure de la bulle éco, on parle du monde de la culture face au Brexit.
La bulle économique, Marie Viennot.
Bonjour, s'il est un milieu dans lequel on ne voulait pas du Brexit outre-Manche, c'est bien celui de la culture. La Fédération des industries créatives britanniques rappelle régulièrement ce chiffre, 96% de ses membres voulaient rester dans l'Union européenne. 2 ans après le vote qui a décidé du contraire, on ne sait pas comment va se dessiner la coopération culturelle à venir entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Tout va dépendre de négociations qui n'ont pas encore commencé. Pour la culture et les arts, comme pour les autres domaines, le Brexit n'a pas eu lieu, mais le vote du 23 juin 2016 a quand même déjà eu des effets bien concrets. Pour commencer, dissipons un doute. Contrairement à ce qui avait été dit avant le Brexit, la série Game of Thrones ne quittera pas l'Irlande du Nord. Les producteurs américains devront sans doute renoncer aux aides qu'ils recevaient de l'Union européenne, mais peu leur importe, ils l'ont déjà dit, et pour eux, le vote en faveur du Brexit a même eu l'avantage de faire chuter la livre, ce qui a réduit le coût de leur tournage nord-irlandais. À l'inverse, la baisse de la livre sterling a renchéri tous les programmes et spectacles achetés pour être distribués en Grande-Bretagne. On a dû renégocier les contrats en tirant les cachets vers le bas pour boucler nos budgets, raconte une Française qui fait venir des spectacles du monde entier au Pays de Galles. Depuis la crise financière, dit-elle, il y a de moins en moins d'argent public pour la culture, alors ça n'aide pas. Austérité oblige, le budget culture, médias, sport n'a fait que baisser outre-Manche. Il représente aujourd'hui moins de 0,5% du budget britannique. Deux fois moins qu'en France. Dans ce contexte, comment le secteur culturel britannique pourra-t-il se passer des aides versées par l'Union européenne ? Leeds, Belfast, Nottingham, Dundee ont en tout cas déjà dû renoncer à leur espoir d'être choisis comme capitale européenne de la culture en 2023. Les petites structures qui proposent un accès gratuit à de nouvelles formes d'art non officielles, moins élitistes, sont celles qui ont le plus à perdre, et avec elles, les centaines de milliers de personnes qui assistaient à leur spectacle. Mais si le pire est à venir, ce n'est pas à cause du manque d'argent. Pour le moment que l'on vienne donner un concert unique, 10 spectacles de danse ou travailler en permanence outre-Manche, aucun visa de travail n'est nécessaire quand on est européen. De la même façon, les artistes et compagnies britanniques peuvent s'exporter sur tout le continent sans contrainte. À l'avenir, il faudra faire des demandes de visa individuelles, payer ces visas, cela va prendre du temps et coûter beaucoup plus cher. La compagnie de cirque de Cardiff a ainsi calculé qu'une tournée aux USA lui coûtait, pour cette raison, 53 000 euros de plus qu'une tournée en Europe. L'orchestre que vous entendez sous ma voix, le European Union Baroque Orchestra, a lui carrément quitté la Grande-Bretagne l'an dernier pour s'installer en Belgique et éviter les restrictions à venir à la liberté de circulation. Si un festival allemand hésite entre un spectacle anglais ou estonien, demain, il aura tout intérêt à choisir l'estonien, anticipe la responsable d'une association culturelle. Les coopérations vont donc être plus difficiles, nous allons nous refermer sur nous-mêmes. Spectacle vivant, art visuel, design, jeux vidéo, cinéma, publicité, immédiat, le désastre post-Brexit est annoncé dans toutes les industries culturelles et créatives. Il risque d'être saignant dans le secteur audiovisuel. Car comme pour la finance, la Grande-Bretagne est aujourd'hui la porte d'entrée de centaines de chaînes extra-européennes qui diffusent ensuite librement leurs programmes dans toute l'Europe. Ce passeport européen audiovisuel, la première ministre britannique veut le conserver à l'avenir, mais les capitales continentales qui lorgnent discrètement sur ce marché ne se laisseront pas faire.
Ah, cette musique entêtante de Game of Thrones, merci beaucoup Marie Viennot. Allez, on lève la tête pour faire un point sur la météo, ce n'est pas très engageant. Du nord au massif central et au sud-ouest, ciel nuageux, faible risque d'ondées l'après-midi. Sur le nord-ouest, les averses n'ont pas attendu cet après-midi et elles iront en s'intensifiant. Cette édition a été préparée par M. Le Chili, à la technique c'était Jean-Frédérix.